Bonjour et bienvenue sur la chaîne podcast d'Anticor.
Dans ce deuxième épisode de notre série consacrée aux lanceurs d'alerte, nous vous proposons aujourd'hui une interview de Nicolas Forissier, auditeur dans le secteur bancaire, qui revient sur son parcours de lanceur d'alerte lorsqu'il était salarié dans la filiale française de la banque suisse UBS. Il est accompagné du journaliste d'investigation Raphaël Ruffier-Fossoul. Avant toute chose, nous rappelons que toutes les personnes citées dans ce podcast sont présumées innocentes tant qu'elles n'ont pas fait l'objet de condamnations définitives. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Nicolas Forissier, pour vous présenter un petit peu rapidement, vous avez travaillé pour UBS France pendant 8 ans, donc d'abord responsable de l'audit interne de la branche française entre 2001 et 2007 pour l'activité de la gestion de fortune. Puis vos prérogatives ont été étendues début 2008 à la banque d'affaires et à la gestion d'actifs.
Tout à fait.
Et dans le cadre de cette activité, vous avez été amené à découvrir l'existence de ce qui était appelé en interne chez UBS, les carnets du lait, donc un système de comptabilité parallèle mis en place par la banque en 2002 pour répertorier les opérations d'évasion fiscale qui étaient proposées à des Français en transférant leur fortune vers la Suisse. Ce système de comptabilité interne qui se tenait sur papier uniquement, avant d'être centralisé par la direction, permettait aux banquiers français de se voir reconnaître leur chiffre d'affaires officieux pour leur bonus de fin d'année. Vous avez signalé ces découvertes en 2007 à travers un rapport d'audit que vous avez remis à votre direction, qui a essayé de vous le faire modifier, ce que vous avez refusé de faire. Et en 2008, vous avez officiellement lancé l'alerte à deux reprises, en juillet et en décembre.
Tout à fait.
On va revenir en détail sur ce qu'a été la réaction de la banque et la manière dont a été gérée votre alerte, et aussi la manière dont vous avez pu interagir avec les différentes instances de contrôle et aussi les associations qui peuvent aider dans ce genre de situation.
D'accord.
UBS s'est vu infliger une amende record de 3,7 milliards en 2019 pour avoir démarché donc des contribuables français pour placer leur fortune à l'abri du fisc. En appel, l'entreprise a été condamnée à une sanction totale de 1,8 milliard d'euros, qui correspond en fait à la caution qui a été placée lors de la première condamnation. Et la maison mère a formé un pourvoi en cassation, mais pas la filiale française, voilà, pour qui la condamnation est donc définitive.
C'est exact.
Voilà. Et vous publiez cette année un livre qui s'intitule « L'ennemi intérieur », que vous avez coécrit avec Raphaël Ruffier-Fossoul, qui est avec nous aussi.
Bonjour.
Et dans lequel vous revenez ensemble sur votre parcours commun, et puis évidemment sur le contenu de votre alerte. Donc pour démarrer, est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste le métier d'auditeur interne? Est-ce que c'est un métier qui existe qui existait chez UBS à la fois en France et en Suisse? Et quel est votre niveau d'indépendance à l'intérieur de la banque à travers ce métier?
Le métier d'auditeur interne existe dans toutes les banques. C'est une fonction réglementaire et réglementée, donc elle est encadrée par la loi et par les lois nationales de chaque État, de chaque pays dans lequel exerce la banque. D'accord? Donc, en ce qui me concerne pour la France, c'est une fonction qui était imposée dès que vous dépassez le cap des 50 salariés et qui doit être permanente. Donc, vous ne pouvez pas, si vous voulez, vous contenter que d'auditeurs externes. Vous devez avoir votre propre dispositif de contrôle et ma principale mission est de veiller à ce que le dispositif de contrôle interne de l'établissement soit conforme à la réglementation locale, aux procédures locales et donc au respect de la loi du pays dans lequel votre filiale exerce. Donc en ce qui me concerne, c'était UBS France, rattachée filiale à 100% de UBS AG, donc du groupe suisse UBS implanté à Zurich. Et en conséquence de quoi, mon métier était de m'assurer que tout le dispositif de contrôle était conforme à la législation française et que la banque, dans son exercice de tous les jours, que ce soit en gestion privée, en gestion d'actifs, comme vous l'avez dit, ou en banque d'affaires, soit conforme avec les us et coutumes locaux. Voilà. À ce titre, bien évidemment, ce sont des missions de contrôle récurrentes. Donc vérifier que les contrôles sont faits, que les procédures existent, qu'il n'y a pas de failles dans les systèmes de contrôle, et surtout pour pouvoir reporter à chaque fin d'année et chaque fin d'exercice à notre autorité de tutelle, donc qui est l'ACPR, l'autorité de contrôle et de prudentiel et de réalisation, qui évalue le dispositif de contrôle. Il se trouve que, comme vous l'avez dit, au cours de mes audits, donc au cours de mes contrôles, j'ai identifié, si vous voulez, des activités illégales, est pénalement répréhensible. Et donc, de par la loi qui régit ma fonction, hein, je ne me suis pas levé un matin, comme je dis souvent, en me disant que je vais devenir un lanceur d'alerte, j'ai pris la décision de dénoncer les faits parce qu'ils étaient pénalement répréhensibles, extrêmement graves, et qu'ils me mettaient en risque pénal à savoir que j'ai une obligation de déclaration. Je n'ai pas une obligation. Les gens souvent associent la déclaration à la dénonciation. Il ne s'agit pas d'une démarche de dénonciation, mais une démarche de déclaration devant des faits qui portent atteinte aux règles locales, aux lois locales et au fonctionnement d'un établissement. Voilà.
Statutairement, vous êtes rattaché donc à la Banque française. Est-ce qu'une alerte, elle va remonter d'abord à la Banque française et ensuite ça devient un parcours classique hiérarchique à l'intérieur de la banque, ou est-ce que c'est vous qui décidez des paliers d'alerte que vous pouvez lancer à l'intérieur de l'établissement ?
Quand j'ai dénoncé mon alerte, il est bien évident que comme cela touchait la filiale française exclusivement, puisque j'avais obtenu les preuves de la mise en place d'un système d'aide à l'évasion fiscale, donc d'une comptabilité parallèle, d'enregistrements illégaux et de départ de clients et d'un démarchage illicite, j'ai contourné ma hiérarchie française telle que la procédure du groupe me permettait de le faire, si vous voulez. Donc j'ai contourné ma hiérarchie locale, donc le président directeur général de l'époque et sa direction, pour directement remonter au niveau du groupe en Suisse. Voilà, et au plus haut niveau du groupe en Suisse. Bien évidemment, vous vous doutez bien qu'à l'époque, il n'y avait pas de protection de lanceur d'alerte, si ce n'est que le groupe UBS devait me garantir mon anonymat, ce qu'il n'a volontairement pas fait pour me mettre en porte-à-faux. Puisque la dernière alerte, je l'ai lancée un vendredi de décembre 2008, et que le lundi, mon anonymat a été levé et que tout le monde savait que j'étais celui qui avait lancé l'alerte sur un fax sécurisé. Donc il y avait bien évidemment une volonté de me marginaliser, de me placardiser et de tout de suite me pourrir la vie pour me sortir. Ils n'avaient pas encore imaginé le scénario dans lequel ils allaient me sortir, mais ils avaient déjà l'intérêt de m'évincer et en tout cas de m'éliminer ou en tout cas de me réduire au silence.
Alors pour reprendre chronologiquement quand même ce qui a été votre parcours à l'intérieur de la banque, quand vous avez démarré donc au début des années 2000,
oui.
Initialement, vous étiez vous dans une démarche de nettoyage entre guillemets de certaines filiales d'UBS. Et à ce moment-là, vous aviez, donc au moment où vous avez démarré, le soutien de votre direction.
Tout à fait.
Et notamment de celui qui était votre premier patron, Jean-Louis de Montesquieu.
Tout à fait.
Quelles étaient vos relations avec lui? Et est-ce que vous pouvez nous parler des premiers moments où vous avez eu, vous, des doutes sur des activités suspicieuses à l'intérieur de la banque, et notamment le rendez-vous avec Tracfin que vous avez fait en sa présence?
Alors, mon premier président directeur général a été Jean-Louis de Montesquieu, et il avait la particularité d'être français, et donc d'être particulièrement averti de la légalité ou non de certaines opérations. Donc j'ai travaillé sous ses ordres et il est venu me chercher parce qu'il savait, sans aucune prétention de ma part, que j'appartenais à ces incorruptibles. Et donc il est venu me chercher parce qu'il avait un besoin impérieux de nettoyer la filiale qui était en phase de développement et qui n'était pas très regardante, si vous voulez, quand vous implantez dans un pays et que vous avez besoin d'avoir une croissance et de faire rentrer de l'argent, vous n'êtes pas forcément regardant auprès des prospects et clients que vous démarchez. C'est pas qu'on était dans une démarche de nettoyage, c'est que nous nous sommes vite rendus compte, au regard des profils des clients que nous rentrions à l'époque, et que certains chargés d'affaires rentraient d'ailleurs, c'était pas la banque qui rentrait, mais c'était certains chargés d'affaires très focusés sur leur bonus, parce que justement, chiffre d'affaires, bonus, et de toujours avoir plus, on s'est vite rendu compte qu'il n'y avait aucune adéquation entre les profils des clients et le cœur d'activité de la banque. Nous étions une banque de gestion de fortune, donc nous étions là pour gérer des patrimoines, conseiller des patrimoines, et de riches patrimoines. Et nous n'étions pas là pour accueillir, excusez-moi, toute la criminalité de la France et de Navarre. Donc, si vous voulez, le business corse, non. Militaro-industriel, pas plus. Les mafieux russes, pas plus. Le Moyen-Orient, non plus. Donc, on avait, si vous voulez, une inadéquation entre les profils de nos clients, sur lesquels on ne savait que très peu de choses, et pourtant, ils étaient déjà stigmatisés et flagués quand il suffisait de googliser et vous voyez bien qu'il y avait des anomalies. Voilà, enfin, je veux dire, une banque n'a pas vocation à gérer le business du pétrole du Centrafrique à travers des sociétés écrans basées au Luxembourg avec des comptes de dirigeants de pays africains dont on voit bien que les uniques mouvements qu'ils ont, ce sont des entrées-sorties et qu'il n'y a pas plus de gestion que ça. Vous voyez, donc c'était ce genre de truc-là. Nous avions les apparatchiks russes, très gênants parce que là aussi, ils étaient mêlés, ils étaient connus en plus de nos services de police, de renseignement, et qu'on se demandait ce qu'ils pouvaient bien faire chez UBS France.
Oui, et vous, notamment, vous avez repéré plusieurs profils comme ça, à travers des achats de yachts, à travers des opérations immobilières dont les fonds sont pas forcément.
Il n'y avait aucun sens à ces opérations. L'agence de Cannes que nous avions acquis via la banque Lloyds, si vous voulez, faisait donc du yacht management. Et le business du yacht management, si vous voulez, c'est un business bien connu, mais il n'y avait aucune raison que ce business soit dans une société de gestion de fortune. Que vous soyez un yacht manager et que vous fassiez du yacht management, ça c'est un business. Mais le simple fait de loger cette activité, qui est en elle-même une activité indépendante, au sein d'une banque de gestion de fortune, faisait qu'on gérait les comptes de gens sur lesquels nous n'avions aucune connaissance des mouvements qu'ils réalisaient. Et en plus, à travers des montages extrêmement sophistiqués, qui étaient extrêmement dangereux pour la banque. Parce que, si vous voulez, moi, au début, je ne m'inscris pas dans la démarche, je ne suis pas dans le fait de me dire « la banque, excusez-moi, fait que des âneries, je vais régler les comptes de la banque ». Non, moi, j'ai mon employeur est français, je vois et je perçois très vite quand même qu'on est vraiment borderline. Et d'ailleurs, on l'est tellement que nous sommes convoqués, comme vous l'avez dit, par Tracfin. C'est-à-dire qu'un jour, les agents Tracfin nous disent « mais vous êtes la seule banque qui ne déclare pas ce que tous vos confrères et consœurs déclarent. Expliquez-nous ce qui vous arrive. Que faites-vous ?»
Parce qu'il y a des obligations déclaratives qui viennent avec le fait d'être...
Si vous voulez, on est quand même censé, dans le cadre de la lutte anti-blanchiment de financement du terrorisme, de nous assurer de l'origine des fonds, du bénéficiaire acceptant et puis de sa conformité par rapport aux règles locales. Quand vous avez des fonds qui arrivent de nulle part, ou à travers trois sociétés dans la même journée, et que vous ne savez pas qui a donné l'ordre, qui va recevoir, et que, en plus, vous voyez que le bénéficiaire final, le bénéficiaire acceptant, est quand même un peu mal aimé sur les réseaux sociaux, vous dites, non, là, ça va bien, quoi, il faut faire gaffe. Donc, très vite, Jean-Louis a compris qu'on était victime d'entrisme non contrôlé parce que la banque ne mettait pas les procédures nécessaires, enfin, avait les procédures, mais ne respectait pas les procédures et ne mettait pas son contrôle à niveau pour éviter que nous réceptionnons ce genre de clients. Les clients avaient compris que la banque elle-même était peu regardante à l'époque et donc venaient massivement avec des capitaux qui n'étaient pas forcément les plus propres possibles. Alors vous me direz, chez UBS, l'argent n'a pas d'odeur, hein, parce que ça se saurait. Mais, si l'argent avait de l'odeur, comme dirait un humoriste, il fournirait les pincettes. Mais c'est connu, si vous voulez, c'était connu. La banque ne regardait pas, ne veillait pas. Et il y a un moment où c'est devenu tellement gros que même l'administration française s'en est rendue compte, elle-même. C'est pour ça que nous sommes convoqués en 2004. Et que je peux vous dire que quand on arrive dans les locaux et qu'on vous dit, écoutez, on va vous donner 6 mois pour nettoyer parce que vous avez tout ce que personne ne veut avoir. En plus, on nous cite des exemples de banques concurrentes qui ont déclaré et que nous, on ne déclare pas. Et que si on ne déclare pas, on perd la licence. Je peux vous dire que quand on ressort de ce rendez-vous avec Jean-Louis de Montesquieu, il me dit, ok, je vous couvre, vous avez les pleins pouvoirs. D'ailleurs, dans la journée, le lendemain, je vais changer, je vais déménager, on me fait déménager. Je prends la salle de réunion qui était à côté de son bureau, véridique, et je suis là pour travailler à ses côtés et sous sa protection, entre guillemets, psychologique et physique, afin qu'on ne m'emmerde pas et que je puisse avoir libre cours à mes investigations.
Parce qu'il n'y a pas que Montesquieu dans la direction du BS, il y a une partie de la direction qui a un double jeu et qui va inciter les commerciaux à faire rentrer tout et n'importe quoi.
Bien sûr. Et de Montesquieu n'avait pas vu que lui-même, au niveau du board et au niveau de son comité exécutif, il avait des gens qui le contournaient et qui, si vous voulez, qui le mettaient en risque lui-même. Et quand on va découvrir que les traîtres, entre guillemets, sont à l'époque le directeur commercial du département Keith Lyon, puisqu'on était segmenté. Alors les Keith Lyon, c'est les gros, très gros clients, les hyper riches. Vous avez le high net worth, comme on dit en anglais, qui sont les moyennement riches. Puis vous avez le corps affluent, qui étaient les petits riches. Enfin, petits riches quand même, avec déjà 500 000 balles en gestion courante. Donc, quand vous vous apercevez que l'entrisme est géré et co-géré par le directeur général du front office, donc des commerciaux, et par le chef de la division des plus gros clients, c'est là que vous vous dites, attendez, c'est bon, on ne peut plus continuer comme ça.
Et donc, ils sont très soutenus par la maison mère.
Et évidemment, très soutenus de manière off par la maison mère qui les encourageait, excusez-moi, au pire des conneries, tous les jours. Donc, c'était n'importe quoi.
D'accord. Et à quel moment part Jean-Louis de Montesquieu? Et en termes de chronologie aussi, à quel moment vous commencez à mettre la main sur donc les fameux carnets du lait? Et comment est-ce que vous avez réussi à obtenir des preuves concordantes à l'intérieur de l'entreprise sur leur existence?
Alors, le président de Montesquieu partira, si vous voulez, en 2004, on est chez Tracfin, on nettoie la banque pendant 6 mois. Donc, grosso modo, entre mars et juin 2005, tout va bien. On reçoit même les agents de Tracfin qui viennent nous féliciter. On reçoit même nos dirigeants suisses qui viennent nous féliciter. Mais si vous voulez, c'est un double jeu. Et effectivement, Jean-Louis se verra notifier son départ en juin 2005 pour être remplacé par par un Suisse venant de Monaco. J'adore, si vous voulez, la nomination chez UBS, puisque le nouveau président était un spécialiste du yacht management et des yachts grecs. Les amateurs grecs basés à Monaco et qui prend la filiale française. C'est pas de l'humour, c'est la vérité. Un grand spécialiste des valises. Quand Jean-Louis part, c'est mon bouclier qui s'en va, quoi. Vous l'avez compris. Donc, je vais être totalement, de 2005 à 2007, totalement marginalisé et on va me laisser croire et on va me laisser travailler parce que, mine de rien, les résultats sont probants. Il faut bien voir que dans le premier volet, de 2001 à 2005, la banque est très contente parce qu'elle a failli perdre sa licence, je le précise. Donc le fait que UBS, en plus, se voit passer de la zone rouge écarlate à la zone verte, avec des super procédures, avec, excusez-moi, un auditeur qui fonctionne et qui a tout nettoyé, qui n'a pas hésité à faire perdre à la banque des centaines de millions d'euros, parce que mon action a coûté très cher à UBS France. Et à UBS Group, parce que quand vous décidez de virer tous les Russes, ok, le Western Europe en France, on ferme, mais ceux qui étaient planqués en Suisse ne sont pas contents et partent aussi. Donc, si vous voulez, moi, j'avais le bilan de mes actions en France, mais je sais que j'ai coûté des centaines de millions d'euros au desk Eastern Europe et au groupe à Zurich. Alors, au début, ça allait bien parce qu'ils étaient contents, parce que quand les mecs, ils puaient la drogue, le trafic d'armes, la criminalité organisée, tout ce que vous voulez. On avait même du trafic d'uranium, on avait du terroriste. Là, c'est très bien pour l'image d'UBS. Ça, c'est très bien. En revanche, de 2005 à 2007, où là, je commence à revenir sur mes missions régaliennes et non pas spéciales, et que je commence à voir qu'il y a des dysfonctionnements sur le desk commercial français, là, ça les amuse moins déjà. Et là, on me fait comprendre que, bon, il va falloir que je me calme un peu et que j'empêche pas les gens de travailler. Alors, c'était dit comme ça dans un premier temps, alors évidemment toujours avec un langage politiquement correct. Mais si vous voulez, pour répondre à votre question, quand est-ce que j'ai les premiers doutes? Alors, les premiers doutes, je les ai en 2003, déjà par rapport aux missions spéciales que j'entreprends. Donc, comment de tels clients ont pu rentrer? Comment des commerciaux ont pu agir de la sorte? Et puis, en 2005, je refais un audit pour voir si mon nettoyage s'est bien passé et qu'ils en ont tenu compte. Et je m'aperçois que d'autres clients français sont rentrés dans la banque, mais cette fois avec d'autres buts, de plutôt quitter la France pour aller vers la Suisse. Et j'acquiers la conviction intime en 2005, quand je tombe sur des notes manuscrites de commerciaux qui proposent, alors que ce sont des commerciaux français, qui proposent des services d'aide à l'évasion fiscale, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et cela me sera confirmé en octobre 2006, quand des patrons d'agences de province, de desks de province, je pense notamment au desk Est-France, au desk Sud-France, et sur le fronton ouest de la France, donc au desk de Bordeaux, où ces chefs de desk viennent, ils sont âgés, ce sont des collaborateurs chevronnés, avertis, où là, ils me parlent d'un risque pénal qu'ils ont et qu'ils ne peuvent plus continuer comme ça. Et en m'expliquant qu'ils ont reçu ordre de participer à l'effort de guerre du développement d'UBS sous, si vous voulez, la direction non plus de Jean-Louis de Montesquieu, mais de Pierre Poyer, donc le fameux Suisse venant d'UBS Monaco. Et là, on ouvre les vannes et là, il faut faire du carnet du lait à fond et de l'évasion fiscale à fond. Et là, un d'entre eux, donc à savoir Serge Huss, le patron de l'agence de Strasbourg et du Grand Est France, va me donner les preuves que je cherchais et qu'il me manquait. Et là, il me donne accès à ces carnets du lait, aux messages SMS qu'ils recevaient en toute discrétion sur leur portable pro, à la comptabilité parallèle, donc au fameux fichier VACHE, là en octobre 2006, j'ai la preuve formelle. Et donc ce que je vais faire, parce que la banque ne sait pas que j'ai ces preuves-là, ce que je vais faire, c'est qu'au dernier moment, en décembre 2006, je change mon plan d'audit je devais continuer à enquêter sur le front et j'abandonne le front office, donc les commerciaux, pour aller sur des fonctions secondaires sur lesquelles les risk scorecards sont tous verts ou orange, mais pas rouge. Et là, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il va auditer la compta, le contrôle de gestion et les RH, sur lequel, par définition, il n'y a pas de risque, puisque c'est officiel et c'est, là aussi, réglementaire et réglementé. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que moi, j'ai acquis les preuves d'un système parallèle et que pour aller dater les opérations et pour pouvoir le justifier, il faut que j'aille dans les journaux comptables de la banque, dans le contrôle de gestion et au niveau des ressources humaines pour comprendre pourquoi certains sont partis aussi rapidement, pourquoi ils ont été évincés, soi-disant en démissionnant, alors que je vais me rendre compte qu'ils ont tous touché des chèques très importants pour acheter leur silence. Donc, UBS se dit « Oh, Forestier se calme, il nous fout la paix, il va auditer des fonctions mineures » et pendant toute ma première partie d'année 2007, je vais enchaîner ces audits cruciaux pour moi qui vont me permettre de trouver et de relier les opérations qui m'ont été données par rapport à la présence ou non et à leur présence ou non dans les journaux comptables. Et évidemment, comme je le raconte et comme Raphaël le raconte, en juin 2007, je termine par le contrôle de gestion. Et donc, ayant compris que les opérations d'aide à l'évasion fiscale portaient un code zéro et ne pouvaient pas faire l'objet d'une observation manuscrite, parce que sinon vous avez la date, l'heure, le machin, quel est le commercial en charge, quel est celui qui reçoit les fonds pour le partage des commissions. Hein, vous doutez bien qu'une opération d'aide à l'évasion fiscale, en fait, si vous voulez, quand on rentrait dans l'outil comptable, même si le Suisse n'avait rien fait, c'était 50-50, parce que le Suisse prenait le risque de recevoir le cash. Et évidemment, les Français faisaient la gueule, excusez-moi l'expression, mais tout simplement parce que lui, il considérait que c'était normalement du full reconnaissance pour lui. Et donc, il ne touchait que 50%. C'est pour ça que quand je vais voir le directeur général de la banque, à l'époque Patrick de Fayette, qui a été condamné d'ailleurs, et je lui donne des dates et des montants précis, je le vois fouiller dans ses papiers, dans son système de contrôle de gestion, et évidemment, il ne trouve pas les opérations. Et il me dit, ah non, attends, je vais les sortir. Et là, il fait un geste bizarre, il se tourne, il va dans son bac à documents, il sort des papiers, il me les met devant les yeux, et il me dit, rappelle-moi les dates, 2005, 2006, ah ouais, si, je les ai, elles sont là. Je lui dis, montre. Mais non, ne t'inquiète pas, c'est OK, je les ai retrouvés. Et c'est là que je m'aperçois que devant moi, il me sort des papiers écrits au crayon à papier, sans aucune observation, et où je le vois. Parce que je lui dis, Patrick, t'as un problème, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Je lui dis, c'est quoi ces opérations? Pourquoi elles ne sont pas dans le système légal? Ne t'inquiète pas, mais si elles le sont, regarde, elles sont là. Je lui dis, non, mais ça, c'est des papiers. Pourquoi elles ne sont pas dans notre système de contrôle de gestion? Et là, il ne peut pas répondre, il est coincé. Et c'est là que je lui dis, ce ne serait pas des carnets du lait? Et là, je vais vous dire, quand je lui dis les carnets du lait, il panique complètement, il me dit, mais si, c'est ça, mais t'inquiète pas, c'est légal. Je ne dis rien. Je lui dis, par contre, tu vas me donner les opérations. Non, je ne peux pas. Si, tu vas me les donner. Non, je ne peux pas. Et c'est là que ça va monter à Pierre Poyer, le président directeur général, qui, là, comprend que j'ai compris, notamment le système de répartition des commissions. Et qu'en voyant que Patrick a créé un système où il est lui-même, il a ouvert lui-même un compte pour recevoir la contrepartie de ses opérations d'évasion fiscale, donc il est ce qu'on appelle en comptabilité un puits sans fond, d'accord, où il note toutes les opérations. Comme ça, il y a une reconnaissance, d'accord, pour les Français, mais vous vous apercevez qu'en face, il n'y a pas de contrepartie française. Et là, c'est bingo, c'est jackpot. Voilà, ils sont coincés. Donc, et je lui demande des explications sur ce système, pourquoi il y a des papiers, pourquoi ce n'est pas dans le système officiel, et évidemment, une absence de réponse totale.
Et effectivement, ce que vous détaillez dans le livre, c'est aussi que donc, du coup, ce système-là, il implique tous les directeurs d'agence qui du coup, sont obligés de se réunir avec la direction française à intervalles réguliers pour que chacun amène ses papiers écrits au crayon et qu'on détruit à la fin de la réunion pour équilibrer les comptes entre les différents commerciaux et entre la France et la Suisse.
Ils se réunissaient mensuellement, trimestriellement et en fin d'année et leur entrée en salle de réunion se faisait en mettant les portables. À l'entrée, il n'y avait pas les portables étaient interdits, donc pas de photos, pas d'enregistrement, rien du tout. Tout le monde arrivait avec ses papiers et on faisait ce qu'on appelle de la compensation, c'est-à-dire que tout le monde remontait ses sommes. Elles étaient compensées en une seule ligne, comme ça, il n'y avait pas le détail. Et quand cela sera d'ailleurs un des arguments de la banque en disant « mais les commissaires aux comptes n'ont rien trouvé, on est propre ». Bah, évidemment, ils ne pouvaient pas trouver puisque les commissaires aux comptes, ils auditaient par grandes lignes et ils voyaient si vous voulez, en revenus, en produits de la banque, des reconnaissances, mais qui ne pouvaient pas décomposer. Donc, vous aviez une grande ligne. On a fait 100 millions. C'est 50 en France, 50 en Suisse. Et puis...
Comment elle était justifiée, cette grande opération qui l'est résumée ?
Ah ben justement, elle était noyée dans la masse. C'est-à-dire que c'était ça le but des carnets du lait, c'était de mélanger le bon grain et l'ivraie, c'est-à-dire que vous réintégriez dans les comptes officiels de la banque en une opération, ce qui était totalement illégal, et ce qui venait s'additionner à notre chiffre d'affaires réel. Et donc, à partir du moment où vous êtes en comptabilité dans le compte officiel, mais que vous n'avez pas la ségrégation en dessous, qui compose votre ligne globale, bah, les commissaires aux comptes, ils disaient, bah ouais, bah, c'est le chiffre d'affaires de la banque, bah voilà, ils ont fait tant de chiffre d'affaires, terminé, voilà, hop, on a vu, c'est conforme, le passif est bien égal à l'actif, pas de problème, ok, on certifie les comptes. Mais parce qu'ils n'allaient pas regarder en dessous, ils ne décomposaient pas les comptes et les lignes de compte. Et c'est là qu'était la faiblesse, c'était là. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de compensation, pour faire simple. C'est-à-dire que le mécanisme de compensation, c'est la régularisation par le passage d'une seule écriture qui matche actif-passif, mais vous n'avez pas le détail.
En fait, la raison pour laquelle tout ça se faisait à l'écrit, c'était notamment pour éviter que des ordinateurs se fassent saisir, des choses comme ça. Donc là, il y avait bien déjà la preuve d'un comportement intentionnellement délictueux. Et puis, par ailleurs, c'est des choses qu'on a vues récemment aussi dans d'autres affaires. On l'a vu dans les affaires de contrôle d'Uber, où ils ont la possibilité comme ça d'éteindre des ordinateurs à distance. Mm-hmm. Vous, c'était un peu le même type de choses.
C'est-à-dire que vous voyez que c'était totalement procéduré et je dirais... organisé à travers cette procédure qui existait, où il était expliqué en toutes lettres, et sur, d'ailleurs, procédure qui m'a été envoyée par erreur par un collaborateur commercial. C'est-à-dire, pour vous dire, l'amateurisme, et d'un certain côté l'amateurisme, mais aussi le fait que plus c'est gros, moins ça se voit. C'est-à-dire que quand je reçois cette procédure, si vous voulez, où il est clairement écrit comment passer la douane, avec des ordinateurs vides, avec des téléphones portables que vous devez désactiver si jamais vous faites gauler par les douanes, changer de compagnie de taxi, changer d'hôtel, ne rencontrer les clients qu'en zone neutre, jamais au domicile. Ou alors, si vous le faites au domicile, ça ne peut être que les Suisses parce que... Voilà, mais c'était du délire. C'était du délire. Et quand je tombe sur cette procédure, vous avez même une hotline à l'ambassade de Suisse où un avocat est fourni 24 sur 24. D'accord ? Si jamais vous êtes gaulé, laissez-nous faire, on intervient. Donc vous imaginez l'imbrication et la complicité, je dirais, non seulement des banques suisses, mais de l'État suisse, puisque la hotline était au sein de l'ambassade de Suisse en France. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc, un jour, j'ai posé la question, pourquoi ça ? Je me souviens, donc, le président Jean-Frédéric Deleuze, qui est arrivé en 2012 à l'ouverture de l'information judiciaire et de l'enquête, a dit « mais parce que c'est pour des raisons de lutte contre le terrorisme, il faut que nos collaborateurs soient en sécurité ». Je lui avais répondu par médias interposés « depuis quand Paris et Beyrouth ?» ou « depuis quand Paris et Kaboul ?» À ce que je sache, on est en plan Vigipirate, il n'y a pas eu d'attentat dans Paris, enfin à l'époque. Les banquiers suisses du BS étaient en toute sécurité en France, si vous voulez. Donc, on voyait bien dans cette procédure, non seulement l'ambivalence des propos, mais la gravité des faits. Où il est écrit noir sur blanc, faites trois fois votre code PIN pour bloquer votre portable si vous vous faites saisir. Ne parlez pas. Soyez courtois, mais ne parlez pas. On arrive. On vous fournit un avocat. Voilà. C'était institutionnel.
Et pour revenir sur la réaction de la banque, donc suite à vos alertes, par quelle étape c'est passé ? Est-ce que ça a démarré tout de suite dans un affrontement ? Ça a commencé d'abord par des tentatives d'acheter votre silence ?
Oui, alors en fait, si vous voulez, ils ont mis en place un dispositif de harcèlement, si vous voulez, avéré et puis ayant fait ses preuves, puisque, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, en 2008, contrairement à ce à quoi j'aurais pu m'attendre, d'abord, je touche le plus gros bonus en 2008 pour l'exercice 2007 de toute ma vie, en étant mes prérogatives, c'est-à-dire qu'on ne me donne pas une seule ligne métier, mais les deux autres lignes métiers, ce qui fait que je deviens le grand patron de l'audit interne, Groupe France. Là où je vais comprendre que c'est pervers, c'est que si vous voulez, en même temps qu'il me donne ce plus gros bonus, je n'ai pas la promotion qui aurait dû aller avec, parce que je n'étais que director et je devais passer executive director, et je ne passe pas executive director, et pour une bonne raison, c'est que dans les procédures du groupe suisse, quand vous êtes nommé ED, comme on dit en anglais, vous devez après réintégrer la maison mère. Revenir à l'intérieur de la bergerie, et avant qu'on vous donne d'autres affectations. Inutile de vous dire que si vous me faites venir en Suisse, au siège à Lausanne de l'audit interne, groupe, et que vous me donnez la possibilité d'enquêter sur les activités des départements commerciaux de Suisse, bah, je vais trouver à la frontière le lien des opérations qui n'ont pas d'explication en France. Donc c'est pour ça que la banque me donne des gros salaires, des gros bonus, étant mon périmètre, mais ne me promeut pas. Parce que je suis évidemment interdit interdit de séjour en Suisse, vous l'avez bien compris. Ça, c'est le premier point. Mais ça, je le comprendrai après. Après, le deuxième point, c'est que si vous voulez, en étant mon périmètre, en me supprimant des ressources humaines, donc en clair, en me mettant en risque de ne pas voir ou de ne pas pouvoir tout contrôler. Et ça, c'est extrêmement grave, puisque vous aurez compris qu'en sous-jacent se classe et se place la faute. Voilà. Donc, de 2007 à 2009, avant mon départ, si vous voulez, c'est pas de promotion, des bonus maintenus, celui de 2008 à 80 000 euros, donc vous êtes à 80% de mon salaire, hein, j'ai pas honte de le dire, et là, vous dites qu'est-ce qui leur arrive. Voilà. Et puis, ben, en fait, vous vous rendez compte que c'est... Ils croient que, comme tous les autres, je vais fermer ma gueule, excusez-moi, et que sous prétexte qu'on me donne un bon salaire et un bon bonus, je vais me taire. Ben non, je continue. Et je continue, et jusqu'au moment où ils vont comprendre que je ne lâcherai pas. Donc, ben, ils vont me mettre à pied. Dans ma malchance, j'ai la chance de... La banque, on passe par la crise de 2007-2008. Alors 2007, c'est le début des ennuis du BS aux États-Unis avec l'affaire Bardley-Birkenfeld, où il tombe pour aide à l'évasion fiscale. Et évasion fiscale, les Américains répondent par la mise en place de la loi FATCA, la convocation du BS, un plaidécoupable à l'américaine, ils payent 750 millions de dollars d'amende. Sauf que nous, ça a des répercussions, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, les Français ont compris que j'avais compris. Et là, c'est là qu'ils réunissent cette fameuse réunion de la rentrée 2007, où ils font venir tous les commerciaux, et Patrick Defayette aura cette phrase, ce comte Forissier a compris, vous faites passer toutes les opérations légales dans le carnet du lait. Et bien, inutile de vous dire que quand vous êtes un commercial et que vous êtes en train de vendre l'hôtel Royal Monceau, que vous allez toucher 80 patates, vous n'avez pas envie de faire 40-40. Vous voulez toucher, pour des raisons de bonus, les 80 millions, parce que vous avez fait votre chiffre d'affaires en un coup, et vous voulez ouvrir droit à 100% de votre bonus. Et malgré tout, Patrick Defayette va donner l'ordre à ce commercial de faire passer la vente du Royal Monceau dans les carnets du lait, alors que c'est une opération légale. Ben, ils débarquent tous dans mon bureau, et là, toute la machine se met en marche. Voilà, c'est parti. Et là, ils vont tous me raconter. Et je vous dis, pendant 2 ans, je vais aller chercher les preuves, une par une. Les collaborateurs gênants vont partir. Et comme on a la crise de 2008, où la banque UBS est quasiment en faillite et que c'est l'État suisse qui aide la banque au niveau du groupe, l'État suisse mettra quand même en tout et pour tout à peu près 80 milliards de francs suisses pour sauver la banque, hein, quand même, c'est pas une petite somme. Donc les filiales à l'international doivent contribuer à l'effort et donc font un plan de sauvegarde de l'emploi et donc restructuration, licenciement économique. C'est un plan volontaire, mais je m'aperçois en mai 2009, le 21 mai 2009 très précisément, que je suis licencié, que mon département va être licencié. Ce que va faire comme une nouvelle erreur la banque, c'est que la banque ne peut pas ne pas avoir d'audit. Et moi, je vais commettre la seule erreur de mon dossier, c'est là que je la commets, c'est que c'est moi qui leur signale qu'ils ne peuvent pas me licencier. Alors que j'ai retrouvé un emploi, je vais toucher 280 000 euros dans le cadre du plan, je rembourse tous mes emprunts, je suis peinard, j'ai déjà le boulot. Et comme un gland, je vais aller leur dire, mais attention, vous pouvez me licencier. OK, mais il faut me remplacer. Et là, je vais commettre cette erreur-là, c'est-à-dire qu'ils comprennent que je ne suis pas licencié parce que ma fonction est réglementaire. Et donc, ils vont me sortir du plan, ils vont me réintégrer dans mes fonctions, et ils vont me dire, Nicolas, on ne peut pas te licencier, mais on va te proposer de l'argent à côté du plan. Mais par contre, tu vas nous faire une petite lettre dans laquelle tu dis que tu t'es un peu emballé, que tu t'es un peu trompé. Et puis, évidemment, le canal qu'on utilise, c'est d'avocat à avocat, puisque vous savez que les courriers entre avocats sont confidentiels et qu'on ne pourra jamais en parler. C'est pour ça que Raphaël en parle très bien. Le jugement s'est fait sur un document que personne ne connaît. Lui-même, je ne peux pas lui donner. Mais moi, je sais que cette lettre existe. Je sais ce qu'il y a dedans. Et le jugement a été fait sur un document que personne ne peut voir. Voilà. Et on a proposé à l'époque au juge Daïef de perquisitionner les bureaux de mon avocate, maître de Saint-Sernin. Alors, il ne voulait pas se mettre à dos tous les avocats de Paris et le bâtonnier de Paris, donc il n'a pas osé. Mais on lui avait fait comprendre que la lettre l'attendait dans l'entrée et que s'il voulait la lettre, il savait où la trouver. Voilà. Et donc, si vous voulez, en conséquence de quoi, c'est là que le juge Daïef a compris que ni mon avocate ni moi ne lui mentions. Son ton va changer à partir de ce moment-là. Hein. Donc, c'est au moment de ce moment-là est redoutable pour la banque UBS, puisque la banque UBS, de 2009 à 2014, m'avait lynché en faisant croire que je pouvais être complice actif et que je savais tout et que c'était pour leur extorquer des fonds que j'avais pris cette posture prud'homale et pénale, alors que je n'ai jamais demandé quoi que ce soit dans mon dossier judiciaire. Vous n'avez rien. C'est eux qui ont tenté de m'acheter. C'est pour ça qu'ils sont renvoyés en correctionnel pour tentative de subornation et harcèlement aggravé. Voilà. Donc, et en plus, ils se sont fait débouter en cassation sur la décision de la chambre d'instruction, puisque la chambre d'instruction a compris que Nicolas Forissier, dans son dossier pénal personnel, était le même que celui qui était dans l'affaire nationale. Et que les conclusions en 233 pages de l'affaire nationale sont rédhibitoires pour la banque UBS. Voilà.
Je voulais revenir sur le fait qu'au sein d'UBS, il y a une autre employée, Stéphanie Gibault,
oui,
qui a aussi été lanceuse d'alerte.
Tout à fait.
Ce qui me paraît être un cas assez rare de double alerte sur un même dossier.
En fait, si vous voulez, les dossiers de Stéphanie et moi étaient complémentaires dans la mesure où Stéphanie travaillait au département marketing et donc n'avait pas une vision comptable et de fraude fiscale. Elle avait une, comme je dis toujours, Stéphanie a eu un rôle incontournable dans ce dossier dans la mesure où elle a démontré l'existence du grief de démarchage illicite et de complicité de démarchage illicite. Donc ça, c'est du Stéphanie à 100%, si vous voulez, dans la mesure où elle faisait des events, elle créait des événements commerciaux, des fêtes, hein, qui étaient organisées pour les commerciaux français et pour les commerciaux suisses, afin qu'ils viennent démarcher sur notre territoire, si vous voulez, des prospects français. Vous aurez compris que la présence de Français n'était qu'un alibi. Parce que si un Français était là, alors l'acte de démarchage ne tenait plus dans la mesure où le Français était là. Mais ils ont organisé, et nous avons trouvé, des événements commerciaux organisés par la France où il n'y avait pas de commerciaux français. Et c'est là qu'on tombe dans le démarchage illégal. Et la présence des commerciaux sur le territoire français...
Les commerciaux suisses.
Commerciaux suisses, pardon, excusez-moi. Sur le territoire français, comme à Bordeaux, où on prend la main dans le sac, un certain Juan Moreno... qu'on ne verra pas parce qu'il s'est barré, mais on tombe sur ces documents sur un ordinateur français. Je vous rappelle que la loi interdit strictement un chargé d'affaires suisse de venir se connecter sur le système commercial et comptable français. Or, sur quoi je tombe? Sur un document à l'entête de UBS Bordeaux, signé Juan Moreno, où l'adresse de réponse est UBS Suisse. Si ce n'est pas un acte de démarchage caractérisé, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, donc inutile de vous dire que tout ça, on l'a compris. Grâce à Stéphanie, effectivement, elle m'a donné des documents qui sont venus confirmer mes doutes. Et donc évidemment, quand j'ai pu prouver que les commerciaux étaient sur le territoire français, que j'ai pu prouver leurs exactions avec les activités commerciales non déclarées à la France, je pense notamment à cet event à Marseille, où, si vous voulez, il n'y a pas un chargé d'affaires français, et qu'en urgence, parce qu'ils savent que on me l'a dit, que je sais qu'il va y avoir un événement commercial organisé au club de la Pelle à Marseille, club prestigieux où se retrouvent les élites marseillaises et des Bouches-du-Rhône, et que c'est organisé par les Suisses, Patrick de Fayette, directeur général de l'époque et directeur des commerciaux, envoie en urgence des commerciaux français pour pas que cet événement tombe dans l'illégalité. Voilà. Évidemment, avec les factures comptables à la clé, et il sera obligé de payer cet événement alors qu'il était prévu au départ qu'il soit payé par la Suisse. Voilà. Un événement d'ailleurs qui coûta fort cher à la banque parce que la banque ne lésinait sur aucun moyen. Donc les champagnes, les vins et les mets étaient toujours de très haute qualité, organisés par des grands chefs. Donc je peux vous dire que quand vous receviez l'addition, ça faisait mal.
Justement sur Stéphanie Gibault, on a appris tout récemment, je crois la semaine dernière, que Bercy faisait appel de la décision du tribunal administratif qui l'incitait à indemniser Stéphanie Gibault pour les renseignements qu'elle a fournis au ministère, qui lui a permis
Alors,
de recouper...
Au ministère, aux douanes judiciaires.
D'accord.
À l'époque, parce que Stéphanie a travaillé. Je ne veux pas employer ce terme-là parce que je ne connais pas son dossier et je ne veux pas commettre d'erreur. Il est bien évident que Stéphanie est restée après mon départ dans la banque et est devenue une source des douanes judiciaires qui était en charge de l'enquête et qui avait été nommée par le juge Daïef pour être en charge de cette enquête. Et c'est vrai que Stéphanie a eu des relations, a orienté, a aidé les douanes judiciaires. Ça, c'est la vérité. J'en ai été le témoin. J'ai moi-même participé.
C'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça a été votre cas également?
Ça a été mon cas, puisque j'ai moi-même donné tout ce que j'avais aux douanes. Mais en plus, si vous voulez, j'ai participé à leur intervention au téléphone, devant ma télé, sur Roland-Garros, où effectivement, les prises de vue de France Télévisions montraient sur le cours central un certain nombre de chargés d'affaires et de prospects, et que sur place, il y avait Stéphanie Gibaud et la chef du département des douanes judiciaires qui s'occupait de l'enquête, et qu'on me demandait de les localiser dans les tribunes. Donc j'ai été témoin de cela, puisque j'étais en ligne avec le capitaine adjoint de cette dame-là, qui était sur place à Roland-Garros, et qui leur a permis, effectivement, de procéder à un coup de filet sur le central de Roland-Garros et dans les restaurants que fraquentaient les chargés d'affaires UBS, avec des prospects français. Et ça leur a permis donc d'avoir la preuve qu'il y avait bien des chargés d'affaires suisses à Roland-Garros, en toute illégalité, auprès de chargés d'affaires français. Et Stéphanie Gibaud était sur place, et il faut reconnaître à Stéphanie que les griefs et les condamnations pour démarchage bancaire illégal et complicité de démarchage bancaire sont à 100% le fait de Stéphanie. Mais pour le reste, pour la vision comptable, comptabilité parallèle, évasion fiscale et aide à l'évasion fiscale, elle n'avait pas les moyens, je dirais, techniques, opérationnels et de vue, comme moi je l'avais, de pouvoir intervenir dans ces départements-là.
Pour revenir sur la condamnation d'UBS, ce procès UBS était un des derniers qui a eu lieu avant la mise en place à la fois donc, de la CRPC, c'est-à-dire la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
C'est exact.
Et la CJIP, la Convention judiciaire d'intérêt public. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quels sont les deux dispositifs et qu'est-ce que ça aurait changé dans une affaire de ce type-là, par exemple, dans la manière dont est reconnue la culpabilité de la banque?
Alors, ces deux dispositifs... Je n'ai pas combattu la CRPC parce que je pense qu'il fallait se doter d'un plaidé coupable à la française. Et comme son nom l'indique, comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité, ce dispositif est une copie, un copier-coller du dispositif américain, et je trouve qu'il a du sens légalement dans la mesure où ça vous permet de négocier votre amende tout en ayant été reconnu au préalable coupable. Là où je me suis battu, et ça restera pour moi un cas de vraiment le casus belli, c'est la CJIP. Parce que la CJIP a été le coup de grâce porté aux lanceurs d'alerte et à la loi Sapin 2. Parce que le législateur, enfin les politiques, parce qu'il n'y a pas de volonté politique de lutter contre la corruption et contre l'évasion fiscale, a permis, par le dispositif de CJIP, donc Convention judiciaire d'intérêt public, de donner à une personne morale la possibilité de négocier son amende directement avec les instances judiciaires, sans pour autant être reconnu coupable. Ce qui veut dire que, d'abord, constitutionnellement parlant, ça vous crée une différence entre la personne physique et la personne morale, parce que je vous rappelle qu'à l'intérieur d'une personne morale, vous avez des mandataires sociaux qui sont responsables, humainement, techniquement et physiquement, des problèmes et des futurs problèmes que peut avoir une société, donc ils en sont solidairement responsables, et ça vous ôte donc la possibilité d'être reconnu coupable. Alors, la banque UBS a utilisé la CRPC, qui a été rejetée par le parquet national financier, parce que les négociations portées par la banque UBS étaient trop basses à l'époque, et que le préjudice par rapport à l'État français était tellement important que la patronne du PNF de l'époque, Madame Moulette, et ses magistrats ont dit « Attendez, vous avez détourné des milliards ». Vous nous proposez 350 ou 250 millions d'euros parce que ça a été la somme retenue en Belgique, en Allemagne, machin. La jurisprudence belge et allemande, je m'en fous. Donc vous avez détourné des milliards, vous devez être sanctionné par rapport à cela. Donc la CRPC, la banque l'a utilisée, a tenté de l'utiliser, les négociations ont achoppé et, si vous voulez, elles ont surtout échoué parce qu'ils se sont rendus compte qu'en reconnaissant leur culpabilité, le problème, c'est comme ils avaient fait les mêmes âneries aux États-Unis, et qu'ils avaient déjà plaidé coupable aux États-Unis, si vous reconnaissez votre culpabilité en ayant dit que vous arrêtiez à date en 2008 aux États-Unis, ça veut dire que vous n'avez pas arrêté, donc vous réouvrez le dossier américain. Et les Américains sont très pragmatiques, eux, ils ne plaisantent pas. C'est, je te prends du pognon, je te mets des super amendes, mais en plus, je te supprime ta licence. UBS a annulé sa CRPC française parce qu'ils perdaient la licence dollar. Ils étaient en risque de perdre la licence dollar. Donc, quand vous êtes une banque et que vous ne pouvez plus traiter en dollars, inutile de vous dire que vous êtes rayé de la carte. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc, UBS s'est retiré de la CRPC. Après, UBS a vu arriver, dans le cadre de la loi qui a été passée en urgence la loi sur la grande délinquance financière, et c'est là que je me suis battu contre ce projet de la CGIP, et bien la CGIP, quand ils l'ont vu arriver, ils ont dit « Attendez, top, on va essayer de la négocier aussi ». Et donc, ils sont rentrés en négociation avec la justice française. Et là encore, ils se sont pris un vent, tout simplement parce que la somme proposée n'était pas en ligne avec leurs exactions. Voilà. Mais ce dispositif est catastrophique en termes de démocratie, en termes d'image judiciaire. Le dossier UBS est le dernier gros dossier de la Ve République qui verra une industrie majeure, enfin une société représentant une industrie majeure et un leader mondial d'activité passer devant un tribunal. La preuve en est, c'est que derrière UBS, toutes les grosses entreprises connues, HSBC, Crédit Suisse, des sociétés françaises, ont préféré la CGIP qu'elle au procès.
Dans les exemples récents de CGIP, on peut citer notamment l'affaire LVMH. Avec,
tout à fait. Exemple. J'allais vous la nommer.
Avec l'affaire Squarcini qui a été résolue par une CGIP.
Exactement.
Et voilà, il n'y aura jamais. Ça a été l'action publique sur ce.
Cela a été non seulement l'action publique, mais vous n'aurez jamais de coupable. Et donc, c'est qui est une aberration pour moi. Ces gens-là ont fraudé, vous le savez, volontairement. Ils ont été reconnus coupables à deux reprises, en 2019, en 2021. Donc, ils sont coupables de faits illégaux. UBS, voilà. Les autres banques ont fait la même chose, je tiens à le préciser. Elles ne seront jamais coupables. Et pourtant, ça nous coûte des centaines de milliards par an. D'où mon combat contre la CGIP et voilà. Que je n'aurais jamais fait voter, que si j'avais pu me battre. J'étais au Sénat quand la CGIP a été proposée et quand la majorité l'a emportée sur ce projet de texte. Ça s'est joué à quelques voix et je tairai ceux qui se sont abstenus pour des raisons bassement mercantiles. Voilà.
Je voulais revenir aussi sur votre parcours en commun. À quel moment vous êtes rentré en contact? Comment s'est passée votre mise en relation et comment vous avez décidé de traiter tout ça?
Moi, en fait, j'avais créé un site dédié aux lanceurs d'alerte avec la conviction que beaucoup de lanceurs d'alerte se sont un peu cramés sur la place publique parce qu'ils n'avaient pas été correctement accompagnés et qu'il y a beaucoup de situations où des journalistes auraient pu les protéger comme source, en fait, et leur éviter des ennuis judiciaires et autres. Donc c'était le site Le Lanceur et c'était dans ce cadre qu'on s'était rencontrés la première fois au Salon du Livre et de l'Alerte. À une période où il n'était pas encore... il était assez isolé, en fait, même s'il commençait à gagner ses combats, mais il n'avait pas du tout la reconnaissance qu'il peut avoir aujourd'hui. Et puis après, le temps a passé, et c'est Gérard Davet, Fabrice Lhomme, qui sont les journalistes d'Enquête du Monde, qui étaient éditeurs chez Fayard, qui étaient en relation avec Nicolas, ont su que Nicolas voulait faire un livre, et nous ont mis en relation, c'était fin 2019, ils ont proposé qu'on travaille ensemble sur ce projet. L'objectif, ce n'était pas de faire un livre à scoop, parce qu'effectivement, beaucoup de choses ont été racontées. Par contre, cette histoire, elle est quand même difficile à entendre pour le grand public, alors qu'elle est absolument hallucinante. C'est-à-dire que Nicolas, dans son travail d'auditeur, comme il le raconte, en fait, il s'est retrouvé au cœur de tous les plus gros scandales de la République. Et il se retrouve dans la banque où on va trouver les comptes de Karachi, les comptes de Cahuzac, les comptes de Bettencourt. C'est toutes ces affaires-là, en fait, qui font qu'à un moment donné...
L'affaire Elf.
L'affaire Elf. Enfin, pour écrire le bouquin, c'est un vrai plaisir presque d'historien de la corruption en France. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on va toutes les retrouver. Et puis c'est ça qui fait qu'à un moment donné, sous la période Sarkozy, hein, parce qu'il faut le dire, quand Sarkozy est président, les services de renseignement qui pouvaient travailler avec Nicolas se sont retournés contre lui. Donc il y a une histoire qui est vraiment hallucinante, mais qui est difficile à raconter, qui devient extrêmement technique. Donc l'enjeu, c'était de faire un livre à hauteur d'homme qui puisse être inspirant, parce que quand on découvre cette affaire, en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a pas de criminalité sans complice dans les banques. Tous les criminels ont une banque, et donc forcément dans les banques, il y a des gens qui couvrent. Forcément dans les banques, il y a des gens qui ne font pas leur travail. Mais la majeure partie du personnel des banques, ce sont des gens honnêtes. C'est aussi ça l'histoire. On parlait là, on a cité deux lanceurs d'alerte sur l'affaire UBS, mais en fait, il y en a toute une série d'autres. Vous êtes une douzaine au final à écrire la lettre qui va formellement lancer l'alerte. Il a eu beaucoup de soutien en réalité, y compris dans la banque, mais aussi dans les services secrets. Beaucoup de gens qui ont risqué leur poste pour faire avancer les choses. Et puis beaucoup de gens, comme on le voit souvent dans les enquêtes journalistiques, c'est que des gens qui travaillent dans la banque, qui voient passer des choses illégales, mais qui n'ont qu'un tout petit bout du truc. Donc pour eux, c'est difficile de reconstituer l'ensemble. Et ils ne savent pas comment, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire. Ils ne savent pas à qui se confier. Si un journaliste vient dans leur horizon, ou si un auditeur vient discuter avec eux, ils vont fournir, cette fois bien volontiers, les informations. Mais sinon, ils ne vont pas le faire parce qu'ils ont peur que ça se retourne contre eux, ils ne savent pas exactement quoi en faire.
Dans le dossier UBS, ce qui est marquant, si vous voulez, c'est que la banque n'a jamais cru, alors que c'est la vérité, et le livre le dit, mais le dossier judiciaire le dit, la banque a été lâchée par ses commerciaux. Et bien sûr, il y a mes missions de contrôle, je vais pas me minimiser, si vous voulez, j'ai trouvé des choses. Mais sans l'aide des commerciaux, sans les propres commerciaux qui réalisent qu'ils sont dans une merde infinie, parce qu'ils supportent un risque pénal majeur et avéré, les types se disent, on préfère plutôt perdre nos postes, et ils vont perdre leurs postes, on préfère se sacrifier, mais on ne continue pas comme ça. Enfin, moi, vous n'imaginez pas le nombre de témoignages de collaborateurs français ou suisses qui m'ont été apportés, et la banque ne reconnaîtra jamais que son modèle a été lâché par ses propres collaborateurs. C'est moi qui mets en relation le juge Daïef et un collaborateur suisse, le fameux qui a déposé en anonymat, hein, sous anonymat. Si le juge Daïef ne l'a pas, son dossier il est pas vide, mais il en manque un bout quand même. Hein. Je vais lui permettre de rencontrer ce collaborateur suisse qui prend tous les risques. C'est pour ça qu'on lui a trouvé un matricule et un code, un numéro de code et qu'il l'a déposé sous anonymat. Parce que ce qu'il a raconté est rédhibitoire pour la banque. Et que, d'abord, un, il ne l'a pas inventé parce qu'il était dans la machine, il était au cœur du réacteur, et qu'en plus, il est venu avec des pièces et des preuves auprès du juge. Donc l'instruction du juge, quand la banque, en première instance, en 2019, dit que le dossier est vide, non, il n'est pas vide, bien sûr que non. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir accéder au dossier. Le dossier n'est pas vide. Alors certes, il repose en grande partie sur certains témoignages, dont le mien. Et c'est vrai que si je n'avais pas pu prouver tout ce que j'ai dit, je pense que le dossier UBS serait passé à l'as. Mais la complétude de l'enquête et je dirais, son organisation ont été des événements rédhibitoires pour la banque. C'est pour ça que s'acharner judiciairement... si vous voulez, c'est la banque qui s'est acharnée contre la justice et à vouloir faire toutes ces procédures bâillons, c'est toujours ces reports, saisir, toujours l'appel, le machin, la cassation. Je vous laisse juste sur cette réflexion. Vous avez un groupe qui se pourvoit en cassation et vous avez sa filiale qui accepte la condamnation. Étant entendu qu'il est prouvé que les ordres venaient d'en haut et qu'on exécutait une politique, un business model. Donc si la banque française accepte une condamnation, c'est que sa maison mère est coupable. Voilà.
Juste pour conclure, aujourd'hui, l'affaire doit passer en cours de cassation.
Oui.
Pour ce qui est de la maison mère.
Ouais.
C'est attendu pour quelle date à peu près?
On n'a aucune idée parce que là, malheureusement, la cassation répond dans les délais qui lui sont propres. Hein. Donc là, le pourvoi a été formé en décembre 2021. On dit toujours que les délais sont à peu près de 6 mois, 1 an, donc j'aimerais bien que la cassation du groupe tombe sur le dernier trimestre 2022. Mais de toute façon, ça ne change rien. Hein. Enfin, je veux dire, la sanction, elle est là et surtout, les griefs sont confirmés. Donc la banque ne pourra jamais dire qu'elle est innocente des faits qui lui sont reprochés. C'est surtout ça qui nous importait. Je tiens quand même à rappeler que beaucoup d'auteurs, d'écrivains, enfin de journalistes se sont fait attaquer en diffamation. La banque ne nous a pas attaqué en diffamation alors qu'elle avait un délai de 90 jours pour le faire, donc elle ne l'a pas fait, ça c'est le premier point. La banque m'a attaqué 2 fois en diffamation, hein. Elle ne s'est jamais présentée, et parce qu'elle savait très bien que moi j'allais arriver avec mon ordinateur, avec mes notes et que j'allais tout balancer. Donc si vous voulez, et là s'ils veulent s'en reprendre une troisième couche, si vous voulez, on peut reparler. Et sur des choses qui sont encore plus prégnantes maintenant, parce qu'on commence à voir, en ayant tiré sur la ficelle, que ben, effectivement la banque UBS, c'est pas simplement que de l'évasion fiscale, hein, c'est quand même le dossier de financement de la campagne de Sarkozy, c'est Bettencourt, c'est tout ça, hein, en sous-jacent. Donc vous avez, le rôle du politique est majeur. Et comme le disait tout à l'heure sincèrement Raphaël, quand Sarkozy arrive au pouvoir, en 2007, c'est un enfer pour moi. Hein. Les services de renseignement qui travaillaient avec moi, les collaborateurs, les officiers de police du renseignement, pour qui j'étais une source, avec qui je travaillais réellement, donc elle a des séries, ont été évincés, et il a retourné, enfin, en ayant mis Square signé la tête, c'est parti en vrille totale. Hein. Il faut voir un peu les intimidations, les trucs qu'on a vécu, c'était du lourd. Et je le cite parce que je... Non pas que je partage les idées politiques, mais je dois à M. Hollande et à son ministre de la Justice de l'époque, donc Mme Taubira, d'avoir lâché le dossier, enfin, permis au dossier de vivre. Sinon, il était complètement fermé et on n'aurait jamais eu... Si on avait continué sous Sarkozy ou avec les mêmes méthodologies, vous n'avez pas de Cahuzac, vous n'avez pas de Bettencourt, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. C'est là qu'on voit la puissance du politique, si vous voulez. Hein. Il y a encore beaucoup de choses à creuser. Il y a beaucoup de choses qui mériteraient d'être soulevées encore, mais sur lesquelles on ne peut pas parce que c'est trop dangereux.
Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à notre invitation. Et pour en savoir plus sur cette affaire, nous vous invitons à lire L'ennemi intérieur, paru chez Fayard au mois de mai.
C'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous suivre sur anticor.org et sur les réseaux sociaux, où nous tenons une revue de presse sur l'actualité de la corruption. À bientôt.